CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAC du Pays Midi-Quercy où on vous parlera de Montricou à travers les arts. Un projet patrimonial et culturel qui est initié notamment par le Pays d'Art et d'Histoire Midi-Quercy. On vous détaillera donc tous les coups de cœur de sa chargée de programmation dans ce MAC d'aujourd'hui. Mais avant ça et en première partie de ce MAC, on parle du contrat local de santé, plus particulier des personnes âgées et du maintien à domicile. On est avec la coordinatrice de ce CLS sur le Pays Midi-Quercy, Audrey Brouillet. Bonjour.
Bonjour Lisa.
Et vous avez invité le coordinateur du Centre de ressources territoriales, Damien Lemousier. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va expliquer un petit peu quelle est votre structure. Avant ça, on peut redéfinir qu'est-ce que c'est que ce contrat local de santé, quels sont ses axes et dans quel cadre est-ce que vous avez invité Damien aujourd'hui, Audrey ?
Alors le contrat local de santé, c'est un dispositif qui est porté et financé par l'ARS et les communautés de communes et porté par le pays Midi-Quercy. Et donc, on va vraiment travailler sur la question de la prévention, de la promotion de la santé, de l'accès aux soins. Et parmi les publics, on a le public personnes âgées, avec l'objectif, en fait, de pouvoir accompagner les personnes le plus longtemps possible au domicile dans le vieillissement et de façon surtout la plus épanouissante. Donc, comme nous avons un magnifique dispositif qui s'appelle le Centre de ressources territoriales, l'occasion fait le larron sur CFM Caylus. Et donc, c'était vraiment d'expliquer ce dispositif qui est à destination des habitants des communautés de communes.
Sur le département de Tarn-et-Garonne ?
Non, c'est un dispositif qui est local. En fait, on est le deuxième CRT à avoir ouvert en Tarn-et-Garonne. Le premier avait été ouvert à Montech il y a 2 ans maintenant. Nous, on a ouvert au 1er janvier de cette année. Donc, on va fêter notre premier anniversaire. C'est des dispositifs qui sont financés par les agences régionales de santé, qui ont été créés par une loi de 2022 et donc qui sont en train de se déployer sur toute la région Occitanie. L'hôpital de Nègrepelisse, qui est maintenant groupement hospitalier Vallée-Quercy depuis bientôt 1 an, a répondu à cet appel à projet et a été retenu pour porter le CRT, donc qui intervient sur la communauté de communes de Caussade, de Nègrepelisse et une partie de celle de Saint-Antonin.
Alors, dans quel domaine ?
Alors, on intervient dans le champ du maintien à domicile des personnes âgées. Les CRT ont 2 missions principales, on va dire. La première de leur mission à travers le volet 1, c'est de déployer des actions de prévention pour les plus de 60 ans. Donc, des actions de prévention sur des thématiques comme le lien social, l'aide aux aidants ou encore les questions de santé. Et le deuxième volet, il est beaucoup plus orienté sur des personnes âgées à domicile, qui vivent des situations un peu compliquées et pour lesquelles il y a besoin d'un renfort en fait pour conforter ce maintien à domicile et éviter l'institutionnalisation quand les personnes souhaitent rester à domicile. Et donc pour ce deuxième volet d'accompagnement renforcé, on va dire, c'est uniquement par contre des professionnels qui peuvent solliciter le CRT. Donc principalement des médecins traitants, des assistantes sociales hospitalières, services d'aide à domicile, les équipes du conseil départemental, etc.
Pourquoi il a été créé ce centre de ressources territoriales ? C'était quoi le besoin à l'origine ?
Alors au niveau national, le besoin c'est vraiment, il y a une volonté du politique d'engager un virage domiciliaire, c'est-à-dire renforcer toutes les dispositions pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, puisque aujourd'hui toutes les enquêtes d'opinion montrent en fait que les personnes souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible et donc il fallait se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là, d'autant que la population française est vieillissante, que la génération qui est née après le baby-boom, enfin, pendant le baby-boom, après 45, devient aujourd'hui âgée, et qu'il faut se préparer à accompagner ces personnes-là. Et donc le CRT, à son niveau, modestement, a cette vocation-là, en fait, de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, et sur notre territoire d'autant plus, puisque le nord-est du département est le territoire le plus vieillissant du Tarn-et-Garonne. Donc il y a un enjeu en plus particulier sur notre territoire.
De quels moyens est-ce que vous disposez, vous, à l'Aigre-Police ?
Alors, on a une équipe pluridisciplinaire, donc avec une ergothérapeute, une infirmière coordinatrice, une diététicienne, un psychologue, un enseignant en activité physique adaptée et moi-même, donc, qui coordonne le dispositif, qui suis assistant social de formation initiale. Et on a un temps aussi de médecin coordonnateur du dispositif. Et donc, l'ensemble de l'équipe, à l'exception du médecin, rencontre les personnes qu'on accompagne, qui bénéficient de l'accompagnement renforcé, et chacun, selon son expertise, va faire des préconisations et soutenir la mise en place d'aide. Par exemple, la diététicienne va faire des bilans nutritionnels, faire des préconisations pour enrichir l'alimentation des personnes, voire faire des préconisations pour lutter contre les risques de déglutition ou de fausse route, par exemple. Et l'idée, c'est aussi de travailler en lien avec les intervenants qui sont déjà au domicile, notamment les aides à domicile, pour que ces recommandations, tous les professionnels et les aidants qui interviennent auprès de la personne âgée puissent s'en saisir. Et l'idée aussi du CRT étant de contribuer à la montée en compétence, on va dire, des professionnels du grand âge et notamment des aides à domicile.
Comment les personnes qui pourraient avoir accès à ce que vous proposez, à vos soins, peuvent ouvrir un dossier et combien ça coûte ?
Alors, du coup, pour l'accompagnement renforcé, c'est-à-dire ce que j'expliquais qui est tout à l'heure, ce que j'expliquais tout à l'heure qui est le volet 2, c'est uniquement sur orientation de professionnels. Donc, on a une fiche d'orientation qu'ils nous adressent par le biais d'une messagerie sécurisée. Et après, par contre, sur les actions de prévention dans le cadre du volet 1, elles sont ouvertes à toute personne. Donc, toute personne de plus de 60 ans peut nous solliciter pour être informée des actions que l'on peut proposer. En appelant le standard de l'hôpital de Nègrepelisse ou bien sur ma ligne directe.
Alors, vous avez dit volet 1, volet 2, redites-nous, c'est quoi volet 1 ? Pourquoi on peut vous appeler ?
Alors, le volet 1, c'est les actions de prévention. On a par exemple déployé une formation des aidants avec France Alzheimer 82 qui s'adresse à tout aidant d'une personne âgée atteinte de troubles cognitifs. On a également mis en place un lien avec le CPIE donc, que vous connaissez sur Caylus, des ateliers dédiés aux seniors sur la prévention à la qualité de l'air intérieur, avec tout ce qui est sensibilisation aux perturbateurs endocriniens, etc. On a aussi proposé une action de premier secours dédiée aux proches aidants, donc avec une formation aux gestes de premier secours réalisée par la Croix-Rouge. C'est ce type d'action qu'on propose dans le cadre du volet 1 et qui donc s'adresse à toute personne de plus de 60 ans du territoire.
Vous vous rejoignez très bien entre le contrat local de santé et le centre donc de ressources territoriales à Nègrepelisse, dans la mesure où toutes les actions que vous proposez, c'est autour de la santé. C'est vraiment prendre la santé dans sa globalité et non pas fournir plus de médecins ou militer pour. C'est vraiment tout un tout.
Alors, fournir plus de médecins, exactement. Et on est aussi dessus. Mais en effet, la question aujourd'hui qui se pose, c'est vraiment la prévention, la promotion de la santé, l'éducation pour la santé, y compris à tous les âges. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Et puis après, c'est, ce qui est aussi intéressant avec le CRT et la question du maintien à domicile, c'est vraiment aussi la question de la citoyenneté, quoi. Voilà, c'est aussi, et le CLS, c'est ça aussi, c'est-à-dire à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour rester aussi pleinement citoyen avec l'âge ou avec des fois du handicap, voilà. Et le contrat local de santé, c'est aussi ce type-là, au-delà de choses pratico-pratiques, mais c'est aussi une vision du vivre ensemble, etc. Et le CRT, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ce travail-là, de à la fois de coordination, mais vraiment de porter aussi ces valeurs-là. On appelle ça maintien à domicile. C'est pas très joli, maintien à domicile, parce qu'on est sur du soutien. En tout cas, on est sur des choix de vie que l'on accompagne jusqu'au bout et vers l'EHPAD aussi parfois, mais faut-il que ce soit aussi un choix. Travaillé, parce que parfois on est obligé d'accompagner jusqu'à l'EHPAD, mais justement ça s'accompagne aussi, et le CRT plus En fait, on travaille à domicile auprès des personnes en situation de complexité, dans le respect, voilà, et mieux, voilà, mieux c'est. Et le contrat local de santé, c'est aussi porter ces valeurs-là aussi, même auprès des élus.
Ce que j'ai essayé très maladroitement de dire, c'était vraiment la prise en compte de la santé dans sa globalité, donc santé mentale, environnementale, la prise en compte des aidants, justement là avec vous pour le centre de ressources territoriales, c'est vraiment la santé dans sa globalité que vous venez tenter d'adoucir, et vraiment pour tous les publics donc.
Oui, et puis après, comme disait Audrey, il y a beaucoup de structures et de porteurs de projets sur notre territoire. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une vision justement territoriale et de se dire que les actions qu'on développe et les projets qu'on porte, il faut qu'ils soient aussi pensés à un niveau plus global que sa seule structure, en fait. Ça, c'est aussi le rôle du CLS d'avoir ce regard-là, mais c'est aussi la responsabilité des structures qui portent des projets, des dispositifs, d'avoir cette idée qu'on s'inscrit dans un certain maillage, dans des politiques publiques, et que d'autres acteurs portent aussi parfois des actions similaires. Mm-hmm. Par exemple, sur la question des aidants, sur le CRT, la façon dont on l'a construit, on ne pouvait pas ignorer le fait qu'on a sur le Tarn-et-Garonne la chance d'avoir une dynamique importante avec le pôle partenaire aidant qui est animé par la PASS 82, qui gère aussi les deux plateformes de répit des aidants. Il était évident pour le CRT, par exemple, de construire les actions dédiées aux aidants en partenariat avec la PASS 82 et les plateformes des aidants, par exemple. Voilà.
Donc ça se rajoute à la dynamique du contrat local de santé qui est justement... de faire travailler ensemble, en tout cas de trouver une cohérence, une coordination au niveau d'un territoire.
Audrey Brouillet, c'est vous la coordinatrice du contrat local de santé, merci beaucoup.
Merci à vous, Lisa.
Vous avez invité aujourd'hui le coordinateur donc du centre ressources territoriales à Nègrepelisse. C'est là-bas qu'on peut vous contacter directement à l'hôpital. Damien Lemousy, merci beaucoup.
Merci à vous.
Gentil, tu dis que je suis tout le temps gentil, tu disparais, réapparais. Putain, faudrait savoir. Et la jambe perd la mémoire. Et savoir qui est la plus belle de vous deux. Et savoir qui est la plus belle de moi. Elle est amoureuse, savoir. Et la jambe perd la mémoire.
Le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
De retour dans ce MAG du pays Midi-Quercy, on voit le détail de ce qui nous est proposé ce mois-ci dans le cadre du pays d'art et d'histoire. On en est avec sa chargée de mission, chargée de programmation, Aude Caverzan. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de deux, trois petits coups de cœur. Avant ça, on présente cet autre projet, Montricou, à travers les arts. On est avec Michel Janin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu à Montricou, c'est vous qui avez eu oui. l'idée, qui avez porté ce projet?
Ah, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'est un projet qu'on a dans les tiroirs depuis plus d'un an, et effectivement on a voulu le financer, rendre les Montriconnais, les entreprises montriconnaises, les commerces, partie prenante de ce projet-là, à travers une collecte de dons.
C'est quelque chose qui nous a tenu à cœur, nous aussi, en tant que pays d'arrêt d'histoire, de valoriser ce village, parce que c'est vraiment un parcours qui va revenir sur l'histoire de Montricou, qui est à la fois qui est très très ancienne, en fait, puisqu'il remonte au XIIe siècle avec les Templiers. Il en reste encore aujourd'hui des traces, avec la tour templière qui fait partie de l'actuel musée Marcel Lenoir, et l'église aussi juste à côté. C'est aussi un village très riche par son architecture, puisqu'il y a une grande concentration de maisons à pans de bois, plus d'une centaine dans le village, et qui est conservée. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, beaucoup, forcément, vu que c'est un village qui a un cachet, on va dire, beaucoup d'artistes l'ont représenté. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer, ce dialogue entre les artistes, l'architecture et l'histoire. Et parmi ces artistes, bien sûr, Marcel Lenoir, que j'ai déjà évoqué, et Louis Cazotte, qui sont tous deux de la Belle Époque, dont on va reparler après, et puis aussi des artistes plus contemporains comme Camille Gauthier ou Lucien Andrieux, qui ont beaucoup représenté la vue emblématique du village depuis une route un petit peu plus en hauteur. Et vraiment, là, on a une magnifique vue sur le village, voilà, qui a été énormément représentée par plein d'artistes.
Mais moi, je voudrais vous entendre, Michel Janin, autour du patrimoine et de l'art autour du patrimoine. Vous êtes servi notamment des données proposées par le service inventaire du patrimoine, et autour de l'art, vous êtes plutôt là dans l'art contemporain.
Oui, alors ils nous ont vraiment aidé ces services-là, parce que d'abord ils nous ont fait découvrir la richesse de notre patrimoine, et en même temps effectivement la richesse artistique dont on disposait. Et on a eu cette idée-là, effectivement, d'associer les artistes. Alors, on parlait des artistes contemporains, mais on parle aussi des artistes d'aujourd'hui qui résident à Montricou et aux alentours de Montricou. Voilà, donc on a une réunion ce soir là, et ils vont certainement se constituer en association. Et l'idée, c'était aussi de dynamiser ce parcours-là avec des artistes d'aujourd'hui, et de proposer des animations sur le parcours qui va être mis en place à partir des artistes qui résident aujourd'hui à Montricou et qui seront constitués en association. Voilà, on a pensé que c'était quelque chose, voilà, de dynamique, de vivant, d'historique, mais aussi d'actuel.
C'est un parcours, donc on arrive en bas du village et on monte, et puis en fait le parcours est donc jalonné d'installations, de structures autour donc de l'art contemporain, en particulier du patrimoine, on le disait aussi. Vous savez déjà où vous en êtes? Vous faites un appel à participation peut-être, ou simplement un appel aux dons?
Alors c'est un appel aux dons, effectivement, hein, donc qui est en cours et qui va se terminer le 31 décembre. Mais c'est la participation de la part des artistes, parce qu'on s'est dit, que c'était la mise en vie, on va dire, de ce parcours-là, qui va être jalonné de 5 stations, appartenait aussi aux artistes. Et l'idée, c'était aussi d'avoir leur regard sur ce village, et sur les propositions artistiques qu'ils seront en mesure de nous faire sur le parcours, pas que sur le parcours spécifiquement, mais le parcours était aussi un prétexte pour les laisser exposer leur créativité.
Vous en êtes où du projet ?
Alors le projet, les appels d'offres pour les mobiliers sont partis, les artisans sont tenus, c'est les artisans locaux qui vont travailler sur ces mobiliers originaux, et on espère une livraison définitive pour le printemps 2026. Voilà, donc on espère pouvoir inaugurer ce nouveau parcours au printemps 2026 avec l'ensemble de la population.
En attendant, on peut toujours aller sur la plateforme Collecticity en tapotant Montricou à travers les arts. On trouvera sur votre projet qu'on peut encore, faire des dons tout simplement pour participer à sa mise en œuvre. Je crois que vous aviez besoin de 150 000 euros à la base, et que le conseil municipal ne pouvait pas forcément le financer entièrement. C'est pour ça que vous avez mis en place cette plateforme, c'est pour ça aussi cette collaboration avec le Pays d'Arrêt d'Histoire et bien d'autres.
Alors, ce projet-là, on pouvait le financer. D'abord, on a l'obligation de pouvoir le financer quand on lance un projet en tant que collectivité locale. Mais l'idée, c'était aussi d'associer, d'abord d'alléger les finances publiques très très concrètement, ça c'est clair, mais aussi d'agréger, on va dire, la population, de la rendre un peu ambassadrice de ce projet-là, de l'associer au projet. Et on a pensé que cette collecte de dons était un bon moyen aussi de faire s'approprier ce projet-là par l'ensemble de la population, des commerces, et d'y voir l'intérêt à la fois touristique et économique qu'il pouvait lui apporter.
Oui, et au-delà des dons, d'ailleurs, on a dans le projet il y a aussi l'idée d'inclure la population en participant à une balade sonore, qui c'est quelque chose qui arrivera un petit peu plus tard, qui accompagnera les panneaux sur place. Mais l'idée, c'est de récolter comme ça les témoignages de différentes personnes du village, comme les Nami qui tiennent le musée Marcel Lenoir, ou Diego Lara qui tient la maison des peintres, le propriétaire du moulin, enfin plein de personnes comme ça à qui on a pensé pour peut-être venir parler dans ces capsules sonores.
Art et patrimoine, donc, pour ce projet Monricou à travers les arts, qu'on peut continuer à financer via la plateforme Collecticity. C'est le conseil municipal de Monricou dont vous faites partie, Michel Janin, qui en avait eu l'idée. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et on continue dans ce MAC du Pays Midi-Quercy à détailler les prochains coups de cœur d'Aude.
Oui, eh bien, ce vendredi, une conférence à ne pas rater du service inventaire du patrimoine du PETR. Donc, sur la belle époque, une thématique que nous suivons depuis cette année jusqu'en 2027, qui va être le fil conducteur de toutes nos animations, puisque justement l'inventaire a vraiment étudié cette période qui correspond à la Troisième République, plus ou moins, qui commence vers 1870. En tout cas, elles le font commencer en 1870, avec la Troisième République, l'implantation de nombreuses mairies, écoles dans le territoire, tout plein de choses, et qui se termine à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est cette période-là qu'elles ont étudiée, que ce soit tout l'aspect, bon, comme j'ai dit, mairies, écoles, le progrès technique aussi, parce que c'est une période où on a les chemins de fer qui se développent, le tramway aussi, avec une ligne Caussade-Caylus, par exemple, beaucoup d'effervescence artistique aussi, on l'a dit tout à l'heure, avec le parcours des arts à Monricou. On a Marcel Lenoir et Louis Cazotte, qui sont deux peintres majeurs qui ont représenté le village, entre autres. On a aussi, par contre, c'est une période assez ambivalente, puisqu'il y a tout cet aspect positif, j'ai envie de dire, d'où le nom Belle Époque, mais c'est aussi une période qui n'est pas si belle, qui est marquée par des conditions de travail très dures, des ouvriers, des paysans. Et c'est toute cette ambivalence que le service inventaire va détailler dans cette conférence vendredi soir à Sept-Fonds, au Florida, donc à 18h30. Ça sera une conférence à plusieurs voix, puisque nous aurons deux chargés d'inventaire, également le conservateur des antiquités et objets d'art de Tarn-et-Garonne, Monsieur Moureau, et aussi en présence de la photographe qui a réalisé la campagne photographique de l'ouvrage, qui va aussi être présentée à l'occasion de cette conférence, puisque bien sûr toutes ces recherches ont servi à faire ce bel ouvrage avec de nombreuses photographies très très belles aussi, qui sera en vente ce soir-là.
Et qui a nécessité des mois, voire des années de travail du service inventaire, qui a été publié là par la région. J'imagine qu'on pourra l'y acheter ce vendredi, donc au Florida.
Exactement. En suivant, un autre coup de cœur, oui, bien sûr, tout simplement, ce qui va avec, elle, comme la photographe a pris de nombreuses photos, il y a eu une sélection de 21 d'entre elles sur la Belle Époque, qui constitue une exposition qui sera à la Mounière jusqu'en mars. Et en fait, cette exposition va être présentée ce dimanche, lors d'une visite guidée à 15h30. Rendez-vous à la Mounière, à Sept-Fonds.
C'est pas l'abbaye de Beaulieu ?
Non, là, on va la déménager demain, justement, et Okay. Elle sera présente dimanche. Ouais. Donc, une exposition très poétique.
Et itinérante, qu'on voit un petit peu partout.
Et itinérante, qui sera à la Mounière, à Sept-Fonds, jusqu'en mars. Ensuite, on l'amènera à Caussade, à l'office de tourisme, puis voyagera un petit peu plus tard en mai à la médiathèque de Monricou.
Sur la thématique donc de la Belle Époque, qui est donc la thématique de cet ouvrage réalisé par le service inventaire, qui est aussi la thématique fil rouge du pays d'art et d'histoire pour encore quelques mois, c'est 2 ans je crois, par thématique, c'était long avant.
Oui, c'était l'eau de 2022 à 2024, donc 3 ans. Et là, c'est la belle époque de cette année 2025 jusqu'en 2027. Donc pendant 3 ans encore, nous avons à explorer cette belle thématique. Mais on a beaucoup de matière hein, avec toutes ces recherches du service inventaire. Un patrimoine qu'on a tous les jours, qui est très très présent, mais qu'on ne soupçonne pas. Parce que souvent, on parle du patrimoine médiéval. Mais en fait, le 19e siècle, 19e, 20e est encore très 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 présent dans nos architectures, entre autres. Et donc voilà, c'est l'occasion de le mettre en valeur.
Avec cet ouvrage donc, et toute une série d'ateliers, de conférences, de visites guidées, de balades, tout au long de l'année, avec le Pays d'art et d'histoire, Midi Quercy, toute une série d'animations qu'on peut retrouver dans le petit guide, le livret rouge Rendez-vous en Pays Midi Quercy, et tout un programme qui est concocté par vous, votre caverne. Vous êtes chargée de programmation de ce PRH. Merci beaucoup.
Merci Misa.
Le mag du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h, et en podcast sur le site cfmradio.fr.